Radio Prague International en français, les informations.
Mais oui, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Dobrý den, vous êtes bien à l'écoute du programme en français de Radio Prague International. Voici les titres de ces informations avec d'abord Bruxelles qui réclame le remboursement de 45 millions d'euros de subventions agricoles à la République tchèque. Un hommage à l'écrivain Karel Čapek, né il y a exactement 130 ans. Et du basket féminin avec Prague qui bat 82-64 l'équipe française de Bourges. La Commission européenne propose de réduire d'environ 14% la somme allouée à la Tchéquie en subventions agricoles en raison des bénéficiaires qui ne seraient pas tous des agriculteurs. C'est une information du site de la radio publique tchèque qui cite la porte-parole de l'institution nationale en charge de la distribution de ces fonds européens pour le domaine agricole. Prague réfute les arguments de la Commission et entend se tourner vers un organe de conciliation, voire vers la CJCE pour obtenir gain de cause. Selon le site de la radio publique, ce dossier est séparé d'un autre dossier agricole problématique, celui qui concerne les subventions allouées au groupe Agrofert, le groupe fondé par le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Une cérémonie en hommage à Karel Čapek a été organisée ce jeudi matin au cimetière de Vyšehrad à Prague à l'occasion du 130e anniversaire de la naissance du grand écrivain, auteur entre autres de La guerre des salamandres et de La fabrique de l'absolu. Karel Čapek est mort en 1938 d'une pneumonie quelques mois avant son arrestation prévue par la Gestapo, qui a ensuite arrêté son frère Josef, mort en déportation en 1945. Václav Richter reviendra ce samedi dans notre rubrique littéraire sur le parcours et l'œuvre de l'écrivain Karel Čapek. La mairie du 1er arrondissement de Prague a validé cette semaine la proposition de donner à un square de l'arrondissement, du 1er arrondissement donc, le nom de Marie Smolková. Marie Smolková, qui a contribué à sauver des milliers de potentielles victimes du nazisme avant la guerre à Prague. Le petit square est situé entre la rue Pajiska, la rue de Paris, et la rue Majzelová. La proposition de nouveau nom doit encore être validée par la municipalité de la capitale. Morte en 1940 à Londres, Marie Smolková ou Smolka, née Eisnerová, est devenue citoyenne d'honneur de Prague en octobre dernier. Elle avait été notamment la seule de la délégation Tchécoslovaquie à participer à la conférence d'Évian de 1938 sur le sort des réfugiés juifs d'Europe. On passe au sport et je vous le disais en titre, les basketteuses de l'USK Prague ont battu à domicile l'équipe de Bourges mercredi soir sur le score de 82-64. La meilleure marqueuse du match, Katerina Elhotova, avec 21 points, a dû hélas quitter le terrain 2 minutes avant la fin de la rencontre à cause d'une blessure à la cheville. Ce match comptait pour la 9e journée de l'Euroleague et permet au club de la capitale tchèque de conforter sa 2e place dans le groupe A derrière les Russes de Yekaterinbourg. Voilà pour l'essentiel des informations. Encore un mot d'économie pour vous dire que le chômage est en légère hausse en République tchèque, avec un taux passé de 2,6 à 2,9% au mois de décembre, selon les chiffres communiqués ce jeudi par l'Office du travail de République tchèque. Ce n'est pas encore une tendance lourde, mais certains analystes prévoient que le chômage pourrait augmenter dans les prochains mois et les prochaines années dans le pays, ce qui pourrait mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. Voilà pour l'essentiel des infos. Pour plus d'infos, c'est sur www.radio.cz et dans une poignée de secondes, c'est la suite du programme en français de Radio Prague International. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Merci à vous Alexis Rosenzweig, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de ce programme de Radio Prague International en français. Miloslava Kalibova, une des 2 dernières survivantes du massacre de Lidice, est décédée à l'âge de 96 ans et elle avait consacré les dernières années de sa vie à témoigner dans des écoles, dans des entretiens ou documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, plus de détails dans un instant. Nous parlerons ensuite du musée du Rideau de Fer situé dans le sud de la Moravie près de la frontière autrichienne. et qui attire de plus en plus de visiteurs. Enfin, rencontre avec la journaliste Katerina Farna qui vient de publier un livre sur Bruxelles. Très bonne écoute à toutes et à tous. On les appelait Lidicekajen et les femmes de Lidice, celles qui avaient survécu au massacre du petit village de Bohême centrale perpétré par les nazis le 10 juin 1942. Elles étaient 143 à rentrer après la Seconde Guerre mondiale en Tchécoslovaquie. Miloslava Kalibova, dont les obsèques se sont déroulées ce mardi à Prague, était l'une des deux dernières survivantes de la tragédie de Lidice, c'est Oradour-sur-Glane, tchèque.
Na Lidickou noc na 10. červen mají podobnou vzpomínku i další tehdejší lidické děti a ženy, například Miroslava Kalibová, rozená Suchánková. Ročník 1922 z domu číslo popisné 83.
Já se sestrou jsem spala normálně a teď tatínek nějak slyšel pořád kroky.
Décédé le 27 décembre dernier, deux jours avant son 97e anniversaire, Miloslava Kalibova faisait partie de ces rescapés qui se rendaient dans des écoles, participaient à des débats et accueillaient chez eux des journalistes et des cinéastes, tout cela pour transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale aux nouvelles générations. L'historienne Gabriela Havlujová a recueilli elle aussi les souvenirs de Miloslava Kalibova.
Elle parlait de ses souvenirs du massacre de Lidice et de ce qu'elle a vécu ensuite au camp de concentration avec une certaine distance, presque sans intérêt. Au fil du temps, j'ai compris que c'était pour elle une manière de se protéger.
Le massacre de Lidice, commune située près de Kladno, à une vingtaine de kilomètres au nord de Prague, est considéré comme l'une des pires atrocités commises dans l'histoire du pays. Le village a été rasé par les nazis le 10 juin 1942 en représailles de l'attentat contre le protecteur du Reich en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich, un attentat perpétré par la résistance tchécoslovaque. Une autre commune, celle de Lejáky, a été meurtrie 15 jours plus tard. Sur près de 500 habitants que comptait Lidice avant la guerre, 340 civils ont été assassinés. Les hommes ont été fusillés au petit matin dans le village, tandis que les femmes et les enfants de moins de 16 ans ont péri en camp de concentration, à l'exception de quelques jeunes enfants placés dans des familles allemandes. Âgée de 19 ans au moment de la tragédie, Miloslava Kalibova ainsi que sa sœur et sa mère ont été déportés au camp de Ravensbrück. Ils y ont passé 3 ans sans rien savoir du sort de Lidice et des autres habitants du village. Les trois femmes ont également survécu aux marches de la mort à la fin de la guerre pour enfin rentrer en Tchécoslovaquie en juin 1945. Dans une émission de la télévision tchèque, Miloslava Kalibova s'est souvenue de ce retour difficile.
Généralement, tout le monde est content de rentrer chez soi. Mais là, je me souviens que nous avons été accueillis par nos proches et nos amis qui ne voulaient pas que nous nous rendions sur le lieu du massacre.
Les 143 femmes et 17 enfants de Lidice escapés de la guerre n'ont trouvé strictement rien à l'emplacement de leur ancien village, juste un vaste champ. Car les autorités nazies ont réussi à littéralement rayer la commune de la carte. Elles ont détruit tous les bâtiments, y compris l'église Saint-Martin, supprimé le cimetière, vidé et comblé l'étang du village, dérivé le ruisseau local. Aussi étrange que cela puisse paraître, les femmes de Lidice ont été nombreuses à s'installer dans le nouveau village construit après la guerre, non loin du lieu du drame où se trouve aujourd'hui un mémorial. Tel était le cas de Miloslava Kalibova et de sa sœur Yaroslava, même si les deux femmes ne sont revenues à Lidice qu'à leur retraite. Nous ne nous rendons pas compte que les témoins directs de la Deuxième Guerre mondiale ont presque tous disparu. Or, aucune exposition audiovisuelle, aussi bonne soit-elle, ne peut jamais avoir la même force que le contact direct avec un témoin vivant, a déclaré l'ancien directeur du mémorial de Lidice, Miloš Červencl, après le décès de Miloslava Kalibova. Il ne reste plus que sa sœur cadette, Jaroslava Skleničková, la plus jeune des femmes de Lidice, âgée de 16 ans et 2 mois au moment du massacre de son village, événement qu'elle a décrit dans son livre au titre éloquent « Si j'avais été un garçon, on m'aurait fusillé ». C'est une époque que les moins de 30 ans n'ont pas connue, celle où les frontières de la Tchécoslovaquie étaient rendues quasi infranchissables par un système de fortifications étanches. Il y a 3 décennies, pourtant après l'effondrement du bloc communiste, commençait le démantèlement du tristement célèbre rideau de fer. Aujourd'hui, en Moravie du Sud, près de la frontière autrichienne, un musée rappelle son histoire et attire de plus en plus de visiteurs. Anna Kubišta.
Ce qui surprend le plus, c'est le côté brut, même brutal, de cette frontière.
Petr Pajpach est le directeur du musée du rideau de fer à Valkice, en Moravie du Sud, à quelques kilomètres de l'Autriche voisine.
Nous présentons l'histoire de la frontière depuis 1918 jusqu'à nos jours. Nous abordons donc un peu la période de la première République tchécoslovaque, mais le cœur de l'exposition concerne le rideau de fer en tant que tel. Nous y présentons un morceau de rideau de fer qui était électrifié à haute tension et qui a causé de nombreuses victimes.
Le rideau de fer, selon l'expression consacrée et popularisée par Winston Churchill, a séparé les pays de l'Ouest et de l'Est de l'Europe pendant près d'un demi-siècle avant son démantèlement à partir de janvier 1990. C'est en 1948, après le coup de Prague, qu'il commence à être édifié dans le pays, mais ce n'est qu'au début des années 50 qu'il devient totalement hermétique en réaction aux tentatives de fuite de nombreux citoyens tchécoslovaques. La frontière était alors isolée par une zone interdite d'une profondeur de 4 à 10 km, où les rares habitants devaient être munis d'un passeport spécial pour pouvoir s'y rendre. Peu à peu, les villages ont été évacués avant d'être rasés dans les années 50. L'ensemble de ce système fortifié représentait en tout 1,5% du territoire tchécoslovaque, ce qui donne une idée de son importance. Au musée du rideau de fer de Valkice, outre la reconstitution de permanence des gardes-frontières, la présentation d'uniformes et d'objets d'époque, on trouve aussi des armes sans lesquelles la surveillance de cette bande interdite n'aurait pas été possible. Des armes qui rappellent aussi que ce rideau de fer n'était pas tant une défense contre un quelconque ennemi extérieur, mais plutôt contre les habitants du pays eux-mêmes, condamnés à passer leur vie de l'autre côté sous peine de la perdre en cherchant à le franchir. Aujourd'hui, 3 décennies après sa disparition, suite à l'effondrement du bloc communiste, l'intérêt pour cette époque révolue est grandissant, comme le note le directeur du musée Petr Pajpach.
Tous les ans, nous accueillons ici entre 7 et 8 000 visiteurs. Ces derniers temps, nous avons le plaisir d'avoir de plus en plus de scolaires, du primaire ou du secondaire. Quant aux touristes venus de l'étranger, ce sont souvent des personnes qui viennent rendre visite à des amis tchèques, qui ont entendu parler du musée et qui ont envie de le découvrir. Nous avons eu des visiteurs lointains d'Australie, d'Amérique, de Chine et du Japon, par exemple.
Pour ceux qui souhaiteraient découvrir le vrai rideau de fer, il faut toutefois se déplacer plus loin, à un peu plus d'une heure de voiture.
Chez nous, il n'y a pas vraiment de vestiges, mais non loin de la ville de Znojmo se trouve un tronçon du rideau de fer qui est toujours en place. Et en plusieurs endroits de République tchèque, des segments ont été reconstitués afin de rappeler l'histoire militaire du pays.
Symbole de l'existence de deux mondes en opposition, de deux sphères d'influence, cette frontière quasi infranchissable pendant plus de 4 décennies, composée de plusieurs bandes de barbelés, de miradors et d'un no man's land, courait sur quelque 930 km le long des frontières avec la RFA et l'Autriche de la Tchécoslovaquie, aujourd'hui disparue.
Aux yeux de beaucoup de Tchèques, Bruxelles reste avant tout la capitale européenne, une ville cliché, grise et monotone, de fonctionnaires en costume cravate. Mais beaucoup aussi oublient que Bruxelles est avant tout la capitale d'un pays, la Belgique, une ville dont le multiculturalisme fait la richesse. Et c'est ce Bruxelles-là, moins connu que Katarzyna Farna a voulu faire découvrir aux Tchèques à travers un livre qui est une invitation à sortir des sentiers battus. Guillaume Narguet l'a rencontré.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait,
C'était au temps où Bruxelles brûlait, place de Brouckère, on voyait les vitrines.
Bonjour, je m'appelle Katarzyna Farna, je suis une journaliste tchèque. Enchantée. Quel d'autre ?
Vous avez écrit un livre sur votre expérience, votre vie bruxelloise.
À Bruxelles, c'est ça vrai. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Katarzyna Farna ne nous en a malheureusement pas dit davantage en français. Mais cela ne l'a pas empêché de nous en dire beaucoup sur son livre intitulé « Jaksem potkala Bruxelles », littéralement « Comment j'ai rencontré Bruxelles », sorti à l'automne dernier, et sa vie bruxelloise. Ancienne correspondante du quotidien tchèque Pravo dans la capitale européenne, aujourd'hui mère de deux enfants, Katarzyna Farna a écrit bien plus qu'un simple guide sur une ville dont beaucoup de Tchèques conservent une idée erronée.
Představa nudného úřednického města je lichá.
L'image de ville administrative ennuyeuse et grise est complètement fausse. Et des gens tout à fait ordinaires et qui ont les mêmes soucis que partout ailleurs vivent à Bruxelles. En tant que journaliste et jeune mère, j'ai découvert une ville dans laquelle on ne parle pas seulement français ou flamand, mais où on entend une langue différente pratiquement à chaque coin de rue et où vivent des gens ordinaires de tous les pays du monde. Il a fallu que j'apprenne à me débrouiller dans ce melting pot culturel. Et venant de Prague, cela a été une expérience personnelle fascinante. Bruxelles est une ville où chaque rue a une odeur différente. Ce que je raconte dans ce livre, c'est donc la vie quotidienne d'une femme ordinaire dans une ville à laquelle il lui a fallu s'adapter pour pouvoir y trouver son bonheur et où le respect de la culture de l'autre est essentiel pour pouvoir y vivre.
C'est pourtant la culture et le mode de vie bruxellois en tant que tel que Katarzyna Farna présente d'abord dans son livre. Et si l'on y trouve des chapitres consacrés à des sujets inévitables dès lors qu'il s'agit de la Belgique et de sa capitale, comme l'Art Nouveau, l'Expo 58, la bande dessinée, les schtroumpfs, la bière, les frites ou même les terroristes, l'auteur a tenu à aller au-delà des lieux communs et à ne pas s'arrêter à une certaine image d'Épinal.
Největší úkol pro mě jako autorky.
La principale mission pour moi en tant qu'auteur n'était pas de combler un trou sur le marché parce qu'on ne parle pas là d'un guide touristique classique, même si certains passages sont consacrés à des attractions touristiques et que le livre peut être utile aux touristes. Mon but était vraiment de présenter la vie à Bruxelles sous de multiples aspects. C'est pourquoi je parle non seulement de culture, mais aussi de sport, de nourriture, un peu de politique, mais aussi par exemple des visites chez le médecin. Des crèches pour les enfants, des impôts, des embouteillages ou de ce que c'est que d'être une bruxelloise ou plutôt une femme à Bruxelles. C'est un livre qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à ce qui se passe ailleurs que chez eux et à la limite, peu importe même qu'il s'agisse de Bruxelles. Ce que je leur propose, c'est un regard personnel sur un environnement de vie qui est extrêmement compliqué pour beaucoup de Tchèques, mais aussi extrêmement intéressant.
Který je pro nás Čechy nesmírně komplikovaný a zajímavý zároveň.
Longtemps, Katarzyna Farna a tenu un blog intitulé Le G bruxellois, un blog sur lequel elle livrait ses diverses expériences, impressions et découvertes. Un blog sur lequel elle parlait aussi bien de l'endive, ou plutôt du chicon, comme diraient les Belges francophones, et du chou de Bruxelles, que des diables rouges, d'un Noël passé à déguster des huîtres, des urinoirs publics, ou encore des vols courants de vélo. Aux yeux de quelques critiques, ce méli-mélo que l'on retrouve dans le livre serait aussi son point faible. Mais ce qui connaissent la vraie Bruxelles et sa faire abstraction de sa météo, une météo qui ne serait de toute façon qu'une affaire mentale, selon ses habitants, ne manqueront certainement pas d'apprécier.
Ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours
C'est ainsi que se termine la mission de Radio Prague International en français. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention et de votre fidélité. L'information tchèque en français, vous le savez, ça continue sur notre site internet radio.cz/fr et aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous demain sur Radio Prague. Au revoir. Naslyšenou.